Avant de vous laisser, voici la première partie de l'émission spéciale écologique réalisée par les Secondes 10. Au programme, un sujet sur la cantine du lycée, la pollution de la ville de Dieppe et de la Normandie, l'interview de M. Bussy, professeur de philosophie au lycée et fondateur d'un collectif de ramassage de déchets qui opère à Dieppe et dans les environs. Un petit point sur la voiture et l'écologie. Et enfin, les élèves se sont intéressés à l'éco-anxiété. Et avant de les écouter, Lucas et moi souhaitons vous remercier de nous avoir accompagnés toute cette matinée. On vous laisse en compagnie de Raphaël et Benjamin. Au revoir et à demain.
Bonjour à tous, c'est Jeanne,
Sarah
et Loan.
Aujourd'hui, notre chronique que nous allons vous présenter s'intitule « Le bien manger à la cantine du lycée Jean Gault ».
Dans un premier temps, nous allons d'abord vous expliquer quelques points importants afin de mieux comprendre la suite en parallèle avec différentes interviews.
Le premier point important est de savoir ce qu'est le bien manger et ses avantages.
Le bien manger est le fait d'avoir une alimentation saine, équilibrée et bonne pour la santé.
Il y a différents avantages à cela, comme consommer des produits frais, des produits de meilleure qualité. Ils permettent aussi une réduction de l'impact écologique et le respect de l'environnement.
Ces produits sont certes plus chers, mais ils soutiennent des producteurs locaux et de l'économie sociale.
Maintenant que nous avons vu ces points importants, nous allons vous faire écouter plusieurs interviews d'élèves et de professeurs.
Est-ce que tu trouves qu'on mange bien à la cantine et est-ce que tu aimes la nourriture ?
En vrai, je trouve que c'est bien. Il peut y avoir mieux, mais les plats sont plutôt bien. Mange juste un peu de surplus, genre c'est pas très généreux, mais sinon ça va.
Est-ce que tu trouves qu'on mange bien à la cantine ?
Oui, mais je trouve qu'on mange un peu toujours la même chose.
Est-ce que vous trouvez qu'on mange bien à la cantine ?
Oui, moi c'est beaucoup mieux qu'au collège.
Et moi je suis interne et le matin il y a plein de choses et le soir c'est tout aussi bon.
Est-ce que vous trouvez qu'on mange bien à la cantine ?
Je trouve qu'on mange très bien à la cantine. Les menus sont suffisamment variés et la qualité des produits est vraiment très satisfaisante, notamment tous les produits laitiers. Voilà, et vraiment, je suis très satisfait des repas et j'ai toujours plaisir à me rendre au self.
En effet, la cantine est globalement appréciée par ses élèves et ses professeurs. Nous avons voulu en savoir encore plus en interrogeant le chef cuisinier du lycée Jean Gault, M. Jouan.
D'où proviennent ces produits ?
Alors, les produits viennent le plus proche possible de ce qu'on peut faire. Donc, Valmont pour la maison Soudry qui nous fournit tout ce qui est fruits et légumes. On a aussi les pommes bio, les fruits bio qui viennent de la ferme de Bonnet. On a le Neuchâtel qui vient du lycée de Brémondier-Merval, qui est bio aussi. On a les pommes de terre qui viennent un petit peu du côté d'Anvermeux. C'est de la pomme de terre bio depuis peu. Et on essaye de travailler, comme je vous dis, les circuits courts.
Est-ce que c'est frais ? Est-ce que c'est fini ?
Alors, on est à peu près entre 80-85% de produits frais ici. Les produits surgelés, on peut pas y échapper quand même. Les produits en boîte, on en a très peu. C'est genre haricots verts en dépannage. Sinon, on est en surgelé. Alors, on est haricots verts, tout ce qui est pâte, tout ce qui est lentilles, c'est sec, des légumes secs. En frais, on travaille crudité, pommes de terre, tout ce qui est dessert aussi. On fait nos desserts maison. Donc, on essaie aussi de travailler les fruits. On essaie au maximum de prioriser le frais, la viande aussi.
Et comment on fait au niveau gaspillage, pour le gaspillage, tout ça ?
Alors, le gaspillage, il y a eu des études qui sont faites. Que vous avez dû voir qu'on a organisé des pesées avec le SMEDA l'année dernière. Donc, on essaye de faire des pesées deux fois par an. Et il s'avère qu'on a fait, par rapport aux secondes premières terminales, on a un peu plus de déchets sur les secondes. Et un peu moins sur les premières, les meilleurs élèves sont les terminales. Qui peut se comprendre que c'est des ados qui mangent un peu plus. Et au niveau national, par rapport à la pesée, on est en dessous de la norme nationale, donc on est pas mal, quoi. Mais on peut toujours mieux faire.
Depuis quand avez-vous commencé ?
Commencé quoi ?
Les produits locaux.
Alors les produits locaux, on a commencé depuis plusieurs années. Et on y va de plus en plus à la demande de notre président de région. Et aussi à la demande du chef d'établissement, et moi-même, quoi. Donc, le seul souci qu'on peut rencontrer sur l'établissement, c'est la quantité. On a des gros soucis aussi pour se faire livrer de la marchandise locale. Si je veux de la carotte, il m'en faut 250 kilos. Je vais voir un producteur local en lui disant, il me faudrait 250 kilos de carottes, c'est un peu chaud. La pomme de terre, on peut avoir. Les produits laitiers, on peut avoir. La volaille, on peut avoir. Après, sortie de tout ça, ça, c'est compliqué sur des gros établissements. Mais sinon, oui, on a commencé depuis plusieurs années. Et là, on est de plus en plus.
Pourquoi avoir privilégié les produits locaux ?
On privilégie les produits locaux parce que ça semble normal quoi, de faire travailler nos entreprises normandes. Tout ce qui est agriculture, raisonnée aussi. Le déchet carbone, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont censées comprendre qu'il est normal de faire travailler nos produits locaux en respectant forcément le budget, ce qui est aussi un problème aussi, comme partout, l'argent, quoi. Il faut gérer tout, quoi. Il faut tout penser.
Pourquoi les repas sont-ils pas 100% bio ?
Alors, ils sont pas 100% bio. Alors, sachez que justement, j'ai une news qui m'est arrivée il y a très peu de temps, où la région aujourd'hui fait des stats. Sur les 160, un petit peu plus de 160 lycées normands, le lycée Angot est classé 7e. Donc on est super bien classé. Et je pense qu'on va, si ça continue dans l'élan où on est parti, je pense être l'année prochaine peut-être dans le top 3. Là on est passé en lait bio, en pain bio, enfin pain bio depuis pas mal d'années. Là on est passé en fruits bio, en fromage bio, on est passé en œufs bio, depuis pas mal de temps on est en œufs bio, farine bio. Comme vous pouvez voir sur les menus, normalement la loi nous demande d'être à 20%, j'y suis pas encore. Alors je priorise le bio parce qu'il y a aussi, comme vous pouvez voir, l'aide de l'Union européenne destinée aux écoles. Et on a eu une réunion régionale avec nos responsables qui nous ont dit qu'il y avait une enveloppe européenne qui est utilisée à 7% au niveau national, donc qui est très très peu utilisée. Et donc on retouche une prime qui s'appelle la prime agrimaire. Et là on est dans la démarche pratiquement à 100%, quoi. On essaye de faire le maximum du maximum. Comme vous pouvez voir, les petites briques de lait sont passées bio. Donc on y va fort, quoi. Je peux me permettre de vous faire de la chouquette bio. Le riz au lait, par exemple, demain, il est bio. J'ai du riz bio, j'ai du sucre bio, j'ai des pommes bio, j'ai le lait bio. Donc, on y va à fond, quoi. Alors, 100%, ça sera pas tenable au niveau budget. C'est pas possible. Mais on essaie de faire tout ce qui est produits laitiers, fruits et légumes, pour toucher cette prime européenne.
Comme nous avons pu l'entendre, le lycée fait de vrais efforts pour proposer des menus divers et variés avec des produits frais et de bonne qualité.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le bien manger au lycée Jean Angot.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour à tous. Nous sommes Lily Dazi
et Léa Mouret, élèves de seconde 10
au lycée Jean Angot. Nous allons vous parler de la pollution de la Normandie et plus particulièrement de la ville de Dieppe.
Notre objectif est de vous sensibiliser par rapport à la pollution de l'environnement et de l'air de notre ville.
Pour remédier à la pollution de Dieppe, nous avons pu découvrir plusieurs acteurs, dont Atmo Normandie sur le site de France 3.
Et l'association de Monsieur Bussy, qui est un professeur de philosophie au lycée Jean Angot.
Le bilan d'Atmo Normandie en 2018 est paru et sa réponse est parfois contrastée. La question que l'on se pose est : l'air que l'on respire dans notre région est-elle aussi polluée que l'on ne le croit ?
La réponse est que malgré ces années où cette mauvaise réputation a collé à notre atmosphère normande, de nombreux progrès ont été constatés, notamment dans les grandes agglomérations régionales comme celle de Rouen.
En réalité, la Normandie, et plus particulièrement la Seine-Maritime, est d'abord concernée par une pollution de l'atmosphère ambiante.
À cela s'ajoutent aussi des épisodes de pollution plus fortes et plus ponctuels.
Ces épisodes sont souvent le plus présents en hiver. Il s'agit souvent d'une concentration élevée de particules fines, notamment due au chauffage au bois.
Tous ces polluants peuvent avoir des effets à long terme sur la santé. Il y a donc eu des nouvelles solutions. Nous reviendrons là-dessus dans quelques instants.
Dieppe serait la ville de Normandie la plus polluée. L'eau de Dieppe est également polluée par le ferry allant en Angleterre. C'est une ville ayant deux centrales nucléaires, Paluel et Penly, qui polluent, ainsi que de nombreux véhicules, émissions polluantes des moteurs thermiques.
92% de la population respire un air trop pollué. La France dépasse les normes fixées par l'OMS sur les particules fines. Notre but est de réduire le volume de déchets, favoriser le recyclage du papier, du verre et des emballages ménagers.
Pour cela, il faut adopter de bons réflexes que certaines personnes ont déjà depuis longtemps à Dieppe. Le service est assuré du lundi au samedi pour les ordures ménagères. Une fois par semaine, les éboueurs passent ramasser les déchets recyclables. Les poubelles à verre sont à disposition dans toutes les communes.
Les déchets verts sont ramassés toutes les semaines du 1er au 30 novembre. Il y a beaucoup de déchets recyclables qu'il faut trier. Plus de 30 000 tonnes de déchets ménagers sont collectées chaque année sur les 16 communes de Dieppe-Maritime, comme les ordures en verre, tout ce qui est recyclable ménager, compost ainsi que le métal.
La plus grosse partie de l'occupation des sols est l'occupation humaine avec 75%, l'agriculture avec 15%, les espaces naturels avec 7%, les zones humaines 2,5% et d'eau 0,5%. Avec les résultats publiés dans le bilan de 2018 d'Atmo Normandie, on constate ainsi que les polluants ne sont plus forcément plus nombreux qu'avant, mais ils sont mieux analysés en détail.
Et surtout, les mesures restrictives à mettre en place par les autorités sont plus rapidement dès le seuil d'alerte atteint.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés attentivement. Nous vous espérons avoir pu vous sensibiliser avec ce sujet délicat et important
qui est la pollution de notre belle ville normande. Nous vous souhaitons une agréable journée et à bientôt sur la web radio. Quel est le but de votre association ?
Alors, elle s'appelle Nettoyons nos rues à Dieppe et aux environs. L'objectif, c'est de faire des nettoyages dans la ville de Dieppe et éventuellement aux alentours, une fois par mois le samedi. Pendant une heure et demie, l'objectif, c'est de faire en sorte que, un, dans les zones qu'on a repérées être les plus sales, enfin, il y en a d'autres, évidemment, mais en gros, c'est de se sentir propre. Et puis, il y a un but aussi un peu pédagogique et de communication, parce qu'on communique pas mal sur ce qu'on fait. On espère à chaque fois que des gens du quartier nous rejoignent, ce qui arrive des fois. Donc, c'est un objectif un peu de sensibilisation à l'environnement, à la propreté urbaine. Après tout, les déchets, c'est les nôtres. Donc si on se plaint après que la ville est sale, c'est à cause de nous.
Oui. Quand et pourquoi avez-vous eu l'idée de la créer ?
Pendant le Covid, on n'avait jamais le droit de sortir. Vous vous rappelez, il fallait qu'on sorte une heure par jour.
Oui.
Et puis à deux ou trois reprises, quand je suis sorti comme ça, je me suis dit pourquoi ne pas nettoyer les rues ? Enfin, j'ai eu l'idée au départ tout seul. Et puis, sortir du Covid, il y a des gens qui ont vu ce que j'avais publié sur Facebook. Et en gros, tout de suite, il y en a qui ont eu la même idée que moi. Parce que c'est une idée qu'en fait, plein de gens ont. Donc là, l'idée, c'est d'avoir créé un collectif qui se réunit de manière mensuelle. Voilà, on a dû annuler le dernier parce que c'était le jour où il y avait du verglas, il faisait très froid. Mais voilà, ça fait plus de 3 ans maintenant. On en fait une fois par mois et c'est des résultats quand même très convenables. On a entre 10 et 30 personnes à chaque fois qui nous rejoignent. C'est pas toujours les mêmes. Des fois il y a des jeunes, des fois il y a des moins jeunes, il y a des gens qui sont là à chaque fois. Et puis on couvre un peu tous les quartiers de la ville.
En la créant, vous attendiez-vous à ce qu'elle fonctionne autant et pourquoi ?
Je sais pas si on s'attendait à quoi que ce soit avec les quelques personnes qui m'ont aidé à créer ce collectif. On s'est dit qu'on allait essayer. De toute façon, l'objectif, c'est de le faire. On l'aurait fait à 3, on l'aurait fait à 5, on le fait à 25. C'est très bien, mais il y en a d'autres qui le font. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. Il y a d'autres groupes. Régulièrement, il y a des associations sportives qui organisent ça avec leurs jeunes régulièrement, sachant que la mairie prête du matériel. La mairie nous prête aussi. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Des fois, on nous dit, on a deux objections. Un, si on le fait nous, est-ce que nous d'autres peuvent le faire ? C'est pas une objection, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des déchets, il y en a tout le temps. Et deuxièmement, la plus grosse objection qu'on ait reçue, c'est mais vous ramassez les déchets des autres, c'est pas normal, ce sera à la mairie de faire ça. La mairie fait son travail, on n'a pas de doute là-dessus, mais les déchets, il y en a toujours malgré tout. On pourrait rajouter 3 fois plus d'agents de la mairie, ça changerait finalement pas grand-chose. Une ville, elle n'est pas sale parce que les gens seraient que sales. Sale, mais aussi, il y a les papiers qui volent, il y a des choses qu'on peut éviter, c'est un mélange. En fait. Donc nous, on s'est dit que l'objectif, c'était de créer un groupe qui passe un bon moment aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a l'idée d'être ensemble, on se connaît maintenant tous à peu près. Donc, on avait quand même comme objectif aussi de passer des bons moments, même en, quand il commence à faire beau, on finit par goûter l'apéro.
Du coup, est-ce que vous attendiez, vous, à une participation active des habitants et de ses alentours?
C'est vrai que parfois, on aimerait plus. Je vous donne un exemple. Ça a très bien marché en début d'année. On est allé dans le quartier des Bruyères. Et là, il y a des enfants, il y en a 5, qui nous ont rejoints pendant qu'ils nous voyaient le faire. Et ça, c'est très enthousiasmant. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, on est un peu déçu. On trouve qu'on donne quand même les moyens de faire ce truc-là. On investit du temps. Et puis, les gens nous passent devant. On a l'air de s'en foutre complètement. Mais c'est pas forcément le cas le plus général. Le cas le plus général, c'est que les gens sont contents de nous voir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils nous rejoignent pour autant. Ça, on aimerait davantage. Un des premiers qu'on avait fait à Neuville, on avait fait afficher par Soudineuf. Aujourd'hui, 3F Normandville, le bailleur social, on avait fait afficher dans tous les halls des immeubles de Neuville qui avaient ce truc-là. Mais ça n'a pas fonctionné. Personne n'est venu grâce à ça. Donc là, on était un peu déçus. Mais de toute façon, on continuera. On est content de le faire. Il y a une bonne ambiance. On trouve que c'est utile. Donc, quel qu'en soit le résultat, des fois il y a des hauts, des fois il y a des moins hauts. C'est sympa quand même. C'est pas une association, c'est un collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut, on ne fait pas de réunion, on ne fait que ça, c'est tout. Et on fait de la com.
D'accord.
Comment les gens ainsi que les mairies ont réagi et est-ce qu'ils ont apporté des idées ou des participations?
En fait, pour l'instant, on l'a fait qu'à Dieppe. De le faire ailleurs, mais comme le groupe est essentiellement Dieppois, on le fait qu'à Dieppe. En revanche, on a fait des petits. À Martin-Église, par exemple, il y a un groupe qui, à notre exemple, ils nous ont dit que c'était vraiment parce qu'on le faisait, ils ont vu nos publications sur Facebook, ils ont dupliqué le système là-bas, à Martin-Église, donc à 7-8 km d'ici. Et maintenant, ils en font un aussi régulièrement, je crois qu'ils en font un ce week-end. La mairie de Dieppe, elle nous aide puisqu'elle nous donne les sacs, les gants, elle nous prête les pinces, je les garde d'ailleurs, les pinces, c'est quand il y a un autre ramassage qu'ils en ont besoin, je leur rends, mais tant qu'il n'y en a pas besoin, je les garde. Et donc ils nous aident, ils font de la communication pour nous, des fois il y a l'info qui est dans le journal de bord, sur le site de la mairie, donc eux ils sont sensibles à ça, tous les ans je leur fais un bilan de ce qu'on a fait, et ils publient le bilan. Donc de toute manière, les mairies ont toujours tout à gagner. On devrait aller avant la fin de l'année quand même à Tourville-sur-Arc, à une dizaine de kilomètres, puisque le maire voudrait qu'on vienne faire un ramassage citoyen chez lui.
Est-ce qu'il y a des élèves d'Ango qui se sont portés bénévoles?
Pas énormément, pas assez à mon sens. On les invite à nous rejoindre régulièrement. Je pourrais vous donner l'adresse du site si vous ne l'avez pas vu sur notre page Facebook. Pour vous donner et diffuser l'information. Et on a eu un beau ramassage citoyen avec eux. C'était pas cette année, c'était l'année dernière, à la rentrée du mois de septembre. On avait 7 à 8 jeunes du lycée Ango qui sont venus avec une fille qui était là. C'était la fille d'une des adultes qui était avec nous à chaque fois, qui a amené sa fille. Et sa fille a amené des jeunes du lycée Ango. Là, ils étaient nombreux. Mais c'est pas très fréquent. On a quelques enfants. Régulièrement, il y en a un qui est presque là à chaque fois, mais des lycéens, des lycées diepois, on n'en voit pas beaucoup, pas assez. L'an dernier, quand on avait fait le forum de l'engagement, moi j'avais passé la journée avec mon stand, donc il y avait plein de gens qui étaient venus nous voir, je les avais rajoutés sur notre groupe WhatsApp pour qu'ils reçoivent l'info mensuelle, mais ça n'a pas produit d'effet. Invitez vos camarades, venez. Diffuser l'information auprès des éco-délégués, il y a de la place pour tout le monde, ça dure qu'une heure et demie, c'est pas long, c'est pas un énorme investissement, mais on a quand même l'impression de faire quelque chose d'utile.
Est-ce que par rapport à votre profession, ça vous a apporté des choses ou des avantages?
Non, pas particulièrement. Alors comme je suis prof, évidemment, j'aimerais bien que des fois les élèves viennent. En début d'année, ou de temps en temps, je fais un petit peu de pub dans mes cours, j'incite les élèves à venir, mais ça ne produit pas d'effet particulier. Non, je ne peux pas vous dire grand-chose sur cette question-là. Plus généralement, l'idée que la jeunesse se mobilise, ça pourrait, pour nous, qui sommes jeunes, qui sont tout à fait jeunes, qui ce serait enthousiasmant. Donc, je les invite encore une fois à venir jouer.
Est-ce que vous avez fait cela parce que vous aimez la nature ou parce que vous étiez plutôt éco-anxieux?
Non, il n'y a pas d'éco-anxiété particulière de ma part. De toute manière, ce ne sont que des déchets. Hein. Ça ne joue pas sur le climat, ça joue plus sur le principe de la propreté que sur... C'est une question plus d'entretien de nos environnements, des espaces dans lesquels on vit, qu'une action d'écologie au sens où on protégerait la planète. Ça ne protège pas fondamentalement la planète. On ne ramasse pas de déchets dangereux. Ça peut arriver des fois. Des fois, on a des gros bidons, on ne sait pas trop ce qu'il y a au fond, ça ne doit pas être très ragoûtant. À chaque fois, l'agglomération ramasse nos déchets. Moi, je les appelle. Et quand il y a des choses un peu encombrantes, type pneus, on a fait 2 ou 3 près de l'avenue verte, là, il y avait vraiment des gros déchets. La plupart du temps, c'est des petits morceaux de plastique, c'est des emballages, c'est des canettes. Je veux dire, en soi, le plastique, c'est un peu embarrassant. Le verre, c'est pas très dangereux pour la planète. En métal, beaucoup plus. Le plastique, oui, parce que ça se transforme en microparticules. Non, il n'y a pas d'éco-anxiété. C'est plutôt un engagement pour... effectivement, l'environnement, la propreté urbaine, pour notre environnement à nous, pour les espaces dans lesquels on vit. Moi, j'ai une sensibilité écologiste, incontestablement, mais c'est pas seulement cet aspect des choses, c'est aussi l'espace dans lequel on vit. L'idée qu'on apporte un peu de soin dans les lieux dans lesquels on vit, plutôt que de se désintéresser en disant c'est le rôle de la mairie, c'est notre espace, donc autant qu'on s'en occupe.
Et c'est quel genre de déchets que vous ramassez le plus ?
Alors, on trie les déchets quand on le peut. Donc, on essaie de séparer le verre, le métal et tout le reste pour pouvoir les mettre dans les bonnes bennes pour qu'à la fin, ça puisse être recyclé. Le verre, c'est le plus facile à recycler, le métal aussi. Ce qu'on ramasse le plus globalement, c'est le plastique. C'est ça qui domine. Alors, il y a les mégots, j'en parle pas, mais il y a des moments, les mégots, c'est tellement décourageant qu'on finit par ne plus les ramasser parce que c'est très bon, en fait. Ramasser un mégot, il faut le ramasser. On a des pinces, mais ramasser un mégot à la pince, c'est très long. Quoi. Donc il y a des endroits où le mégot devient totalement décourageant. Donc on ramasse beaucoup, mais des fois on finit par laisser tomber, il y en a trop. Ce qu'on ramasse énormément, c'est des canettes métal, pour n'importe quelle marque de soda, ça, il y en a absolument partout. Il y a des endroits où ça ne se voit pas, en fait. C'est ça qui est très rigolo dans le ramassage citoyen, c'est que c'est souvent quand on s'enfonce un peu hors des endroits où tout le monde passe, que là on voit des régissements hein, par endroits. On a vu des endroits, c'était absolument affreux. Vous passez une heure à ramasser 10 mètres carrés, et à la fin vous avez 5 sacs pleins de canettes de métal. Il y a ça, il y a le verre par endroits, il y a énormément de canettes de bière. Il y a des endroits en fait où il y a des gens, on n'est pas là pour porter des jugements hein, de fait, mais il y a des endroits où il y a des gens qui boivent, quoi, qui se mettent au même endroit, qui restent au même endroit. Visiblement, ils reviennent régulièrement parce que quand vous y revenez, j'en connais 3 ou 4 à Dieppe, il y en a plein d'autres. Et vous venez tous les 6 mois et là, vous avez un. Alors, c'est souvent dans des fourrés cachés sous la végétation, vous avez des tas complets de canettes de bière hein, ou des flasques d'alcool. Donc, il y a quand même des endroits où les gens boivent de l'alcool et souvent ils se posent dans un endroit et c'est souvent les mêmes endroits. Donc, dans l'ordre, je dirais, le plastique sous toutes ses formes, si vous allez près d'un. Un marchand de tabac, vous allez trouver des monceaux d'emballage de bonbons, par exemple. Vraiment des monceaux. C'est pas facile à ramasser parce que c'est tout petit. Vous allez avoir la canette. Nous, on aime bien parce que c'est facile à ramasser. Et bon, quand il y en a plein, bon, on a l'impression que c'est très utile. Derrière la gare, c'est un des pires ramassages qu'on ait fait sur le parking de la gare. Là, c'est vraiment des monceaux entiers de canettes. Quoi. Du verre, c'est très pénible quand il est cassé, ça arrive. Ramasser tous les bouts, on essaie de faire le maximum, on a des gants quand même. Et puis le verre, quand il n'est pas cassé, ça, on a l'impression d'être très utile en ramassant du verre. Même si le verre, c'est pas pour la nature, à part que ça peut couper, mais c'est pas dangereux en termes chimiques, hein, c'est pas un problème particulier. Et après, il y a tout le reste. Là, c'est inclassable. Dans certains endroits, il n'y en a pas. Dans d'autres, il y en a énormément. Des encombrants, des bouts de meubles. Des fois, je me dis, près de l'avenue verte, on trouve parfois des énormes bidons, on trouve des pneus, on trouve des. Des fois même une gazinière, ça nous est arrivé. Enfin, il y a des endroits reculés un peu où les gens balancent n'importe quoi. Là, c'est de la décharge pure et simple. Donc, bon, dans l'ordre, c'est à peu près ce que je vous ai donné. Métal, plastique, métal, verre et tout le reste.
Bonjour les auditeurs. Notre chronique a comme sujet les déplacements, transports dans un futur proche. Durant ces quelques minutes à venir, nous pourrons débattre et exposer nos idées avec Gaspard Guillou, Adrien Fontenay et moi-même, Maxime Deltombe.
Nous vous ferons ensuite écouter les interviews de 2 conducteurs à qui nous avons posé des questions pour connaître leurs habitudes et leurs envies écologiques toujours en rapport avec notre thème.
Pour rester le plus clair, précis et parlant possible pour vous, nous avons pris la décision d'axer toute notre chronique sur le transport le plus utilisé, la voiture.
Revenons quelques années en arrière, là où tout a commencé pour la voiture. C'est au 19e siècle que la première voiture est mise au point par Monsieur Benz, qui deviendra fondateur de Benz & Cie, qui deviendra Mercedes-Benz.
Mais comment fonctionnait notre première voiture ?
Ce premier engin se nommait le Tricycles Benz One. Il détenait un moteur à explosion, marchant à l'air et à l'essence.
Depuis le 19e siècle, l'automobile n'a pas cessé d'évoluer, avec des progrès technologiques, des améliorations de sécurité et de confort, et aussi l'apparition de nouvelles sources d'énergie. Et oui, car en effet, après l'explosion du marché automobile, la production de ces engins n'a cessé de fonctionner et d'augmenter.
Globalement, que des points positifs pour le moment.
Oui, mais attends un peu. La popularité de ce produit a engendré une surproduction. Voilà quelques chiffres pour vous mettre la puce à l'oreille. En effet, entre 1947 et 2010, la production d'automobiles en circulation est passée de 50 millions à 1 milliard.
Celle-ci a participé à l'épuisement des matières premières nécessaires à la fabrication des voitures. À cause de la production et de l'utilisation très polluante, ce pic de popularité a donc causé d'énormes problèmes climatiques ou encore environnementaux.
Ah oui, en effet, pas mal de problèmes donc.
C'est cela, mais malheureusement, ça n'est pas tout. Pour vous montrer encore plus l'ampleur des dégâts, voici trois chiffres pour comprendre l'ampleur de la pollution automobile.
Les transports sont responsables de 29% des émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est de loin le secteur le plus polluant, devant l'agriculture et l'industrie manufacturière. Parmi les transports, la contribution des avions et des bateaux à la pollution reste très marginale. Les voitures des particuliers et les poids lourds émettent la grande majorité du CO2, 75% à E2.
48 000, c'est le nombre de décès qui pourraient être attribués chaque année à la pollution aux particules fines, PM2,5, en France métropolitaine, selon une enquête de référence de Santé publique France. Au vu de leur faible diamètre, elles pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire et les autres organes, en particulier le cœur, augmentant le risque d'affection cardiovasculaire ou de cancer. Ces particules sont notamment émises par les moteurs thermiques et en particulier ceux fonctionnant au diesel. Et contrairement à une idée reçue, les habitants des campagnes subissent eux aussi les conséquences de cette pollution.
69%, c'est la part des véhicules diesel dans le parc automobile français. C'est un record européen puisque ce taux est deux fois supérieur à celui de l'Allemagne, la mère patrie du diesel. Cette particularité française s'explique par des décennies d'incitation fiscale des gouvernements à utiliser du diesel, car moins émetteur de CO2. Ce paradigme a changé en 2014 quand les autorités ont admis avoir sous-estimé la pollution aux particules fines.
Mais comment avons-nous réagi, Maxime ?
Après avoir pris conscience des risques pour la planète, les utilisateurs, futurs conducteurs et de nombreux pays ont cherché et cherchent encore à trouver des solutions.
Mais quelles solutions ?
En mai dernier, le gouvernement a lancé un plan de 8 milliards d'euros pour subventionner l'achat de voitures électriques. Le but ? Encourager tous les ménages à se doter d'un véhicule propre.
Pour connaître de nouvelles solutions, cette fois propres à chaque personne, nous avons décidé d'interviewer deux conducteurs.
L'une, conductrice d'une voiture 100% électrique, Anne Delton, et l'autre, conducteur d'un véhicule diesel, Wilfried Fontenay.
Bonjour Anne Deltombe, quelles sont vos habitudes ou votre fréquence d'utilisation de ce véhicule ?
J'utilise ma voiture tous les jours pour me rendre à mon travail. C'est primordial car j'habite à la campagne et j'ai absolument besoin d'une voiture tous les jours.
Aucun moyen de changer de possibilité, d'aller à un autre moyen, d'aller à votre travail sans cette voiture ?
Malheureusement, ma commune n'est pas desservie par les transports en commun.
Trouvez-vous que votre véhicule est écologique par rapport aux autres véhicules ?
Oui, car il ne génère pas d'émissions d'essence ou de gasoil dans la nature.
Mais avez-vous quand même conscience de l'impact sur l'environnement qu'il a lors de sa fabrication ?
Oui.
Très bien, donc vous êtes au courant que lors de la construction de ces véhicules, lors de la récupération de ces matières premières, de la fabrication de ces batteries, le lithium, on entend beaucoup parler en ce moment, ces véhicules ne sont pas 100% écologiques.
Oui, mais l'impact sur l'environnement est quand même minimisé par rapport à un véhicule essence.
Très bien. Avez-vous eu un véhicule avant ce véhicule électrique ?
Oui, je roulais avec un véhicule essence.
Très bien. Et avez-vous constaté différents changements comparés à ce véhicule ?
Alors, le premier changement pour moi, ça a été les économies qui ont été faites et puis aussi le confort que me propose cette voiture.
Qu'entendez-vous par économie ?
La charge de mon véhicule n'impacte pas ma facture d'électricité.
D'accord, donc là, le rajout de cette consommation d'électricité n'impacte pas la facture comparé à l'essence qui est en pleine augmentation en ce moment, on le sait, et qui, cette fois-ci, impacte la facture d'une famille, par exemple.
Exactement.
Très bien, merci beaucoup, Anne.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, présentez-vous.
Je m'appelle Wilfried Fontenay, 42 ans, marié, 3 enfants, menuisier charpentier bois, de métier.
Et donc, vous conduisez quel genre de véhicule ?
Alors, à titre personnel, j'ai une petite voiture citadine et un véhicule loisir. Et après, au niveau professionnel, je conduis tout ce qui est tracteur, télescopique, engin de levage, donc avec divers carburants en fonction de si le véhicule il est sur la route ou juste sur les chantiers.
Donc, à quelle fréquence vous utilisez vos véhicules ?
Alors mon véhicule personnel, qui est un véhicule diesel, je l'utilise pour aller au travail, donc pour faire 120 km par jour, donc aller-retour. Et mon véhicule loisir, c'est un véhicule essence.
Donc est-ce que vous pouvez vous en passer de vos véhicules ?
Le véhicule diesel, de tous les jours, je ne peux pas m'en passer. Si je devais m'en passer, ça m'obligerait à déménager pour m'approcher de mon travail. Ce que je veux pas forcément faire, ce qui est quelque chose de compliqué, je trouve, de se rapprocher du travail pour économiser du carburant. Ensuite, le véhicule loisir, je pourrais m'en passer. Si vraiment il fallait, je le ferais.
Donc, est-ce que vous avez des solutions pour limiter votre impact écologique au niveau de la pollution ou des gaz carboniques ?
Là, tout de suite, non. Après, c'est vrai que j'ai un vieux véhicule, j'ai un véhicule de 2002, donc qui est un diesel, donc je pense qu'il est quand même assez polluant. J'imagine que oui, forcément, c'est les vieux véhicules, ils polluent, mais après, on n'a pas forcément le budget pour acheter un véhicule essence, éthanol ou électrique. Donc non, j'ai pas vraiment de solution adéquate là, dans l'immédiat.
Est-ce que vous avez conscience des conséquences de rouler en diesel, par exemple ?
Ah bah oui, du coup, à cause des vieux véhicules, on a quand même mis les zones faibles émissions. En gros, c'était à cause de ça, par rapport aux pollutions des grosses villes, par rapport, je pense que ça impacte aussi le réchauffement climatique, les problèmes dans la couche d'ozone. Donc je me rends bien compte qu'il y a un impact... on va dire mondial par rapport à la pollution des véhicules. Hein. De toute façon, ça, c'est dit, c'est répété. Mais moi, pour mon cas, j'ai pas de solution là tout de suite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne journée à vous tous.
Et à bientôt.
Bonjour à tous, je m'appelle Anjada et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à l'éco-anxiété. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maya, élève du lycée Angot, qui a fait des recherches sur ce phénomène qui touche de plus en plus de personnes.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Merci d'être là. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'éco-anxiété ?
Bien sûr, jusqu'ici il n'existe pas encore de définition de l'éco-anxiété qui fasse l'objet d'un consensus, notamment d'un point de vue médical, mais globalement l'éco-anxiété est le sentiment d'inquiétude ou de peur chronique suscité par les crises environnementales.
Très intéressant, mais donc ce phénomène est très récent, car le réchauffement climatique est que depuis quelques années la plus grande menace qui touche notre société.
En effet, ce phénomène est très récent. Ce terme a été inventé en 1998 par Véronique Lapège, médecin chercheur en santé publique et en santé mentale.
Mais qui sont les personnes touchées ?
Les éco-anxieux sont une population majoritairement de jeunes, urbains, féminisés et éduqués. Selon des recherches de France 24 faites dans 10 pays, dont la France, on estime qu'environ 84% les 15-30 ans sont inquiets par le réchauffement climatique, dont 54 très inquiets. C'est plus que chez les adultes.
Mais pourquoi les jeunes sont les plus touchés ?
Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ils sont plus exposés à cette thématique qui a été présente sur Internet et les réseaux sociaux. Ils sont aussi les plus nombreux à y partager leurs craintes et leur mal-être avec leurs amis ou même publiquement. On a pu le voir avec la mobilisation massive des jeunes autour de Greta Thunberg, militante écologique qui a commencé à militer dès l'âge de 15 ans, en 2018. Elle a maintenant 20 ans et elle milite toujours. C'est un vrai exemple emblématique de l'éco-anxiété. D'après d'autres recherches de Radio France, 15,5% des jeunes dans le monde sont touchés d'éco-anxiété, mais seulement 5% en France.
Et quels peuvent être les symptômes de cette éco-anxiété ?
Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais on peut trouver plusieurs sortes de symptômes mentaux, physiques et sociaux. Ce phénomène crée des signes d'anxiété classiques, tels que la palpitation, des troubles du sommeil, des crises d'angoisse, des difficultés de concentration, etc. Certaines peuvent également ressentir une forme de colère ou de déni face à cette problématique. Il est important de souligner que chaque individu peut réagir différemment à l'éco-anxiété. Certaines personnes atteintes disent ne plus faire d'enfants, et des parents éco-anxieux se demandent parfois s'ils ont bien fait de mettre au monde des enfants.
Est-ce que ces personnes souffrent de l'éco-anxiété ?
Oui, l'éco-anxiété n'est pas forcément facile. De l'éco-anxiété souffre de ne plus pouvoir manger ou de ne plus pouvoir dormir.
Il est important d'abord de reconnaître que l'éco-anxiété est un problème réel et qu'elle ne doit pas être minimisée.
Oui, il faut encourager ces personnes à parler de leurs préoccupations, que ce soit avec des amis ou même des membres de leur famille ou des professionnels de santé. Il est aussi nécessaire de proposer des solutions concrètes pour agir et se sentir utile, à travers des solutions individuelles ou même collectives.
Merci beaucoup Maya pour toutes tes informations. Malheureusement, notre temps d'antenne est écoulé, mais nous espérons avoir pu sensibiliser nos auditeurs sur ce sujet important qu'est l'éco-anxiété.
Prenez soin de vous et de votre planète.
À bientôt.